Dimanche 25 décembre. Chapitre 22. Night Shift. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse, chapitre 1, verset 5. 1. Des flacons argentés saturaient le ciel comme une nuée d'insectes métalliques. Il était 7 heures du matin lorsque Gaspard et Madeleine arrivèrent au cimetière marin de Staten Island. Ils avaient roulé toute la nuit et étaient au-delà de l'épuisement. Pour tenir le coup, Madeleine avait fumé cigarette sur cigarette et Gaspard avait vidé une thermos de café. La neige les avait surpris dans les derniers kilomètres, tapissant la route d'une couche de plusieurs centimètres qui avait encore ralenti leur progression. C'est donc en bravant la tempête qu'ils avaient pénétré dans l'enceinte du Boat Graveyard. Le terrain était ceinturé de clôtures en fil de fer barbelé et de pancartes alertant sur les dangers qu'il pouvait y avoir à s'y aventurer. Mais il était beaucoup trop vaste pour interdire l'entrée à qui voulait s'y engager. L'argument le plus dissuasif était encore l'odeur qui régnait sur la zone. C'était elle qui vous frappait d'abord. Des effluves écœurants de poissons pourris et d'algues en décomposition. Un fumet qui contaminait l'atmosphère, vous soulevait le cœur et vous donnait des vertiges. Ce n'est qu'une fois que vous étiez parvenu à surmonter votre répulsion première que vous preniez pleinement conscience du panorama et de son étrange et paradoxale beauté. Dans un ciel délayé au carbonate de plomb, s'étendait un paysage de fin du monde. Un no man's land sauvage, laissé en déshérence, envahi par des milliers d'épaves. Des barcasses qui pourrissaient dans la boue. Des navires désossés, des péniches échouées dans la vase depuis des décennies, des cargos rouillés, des voiliers dont les mâts cliquetaient, jusqu'à la carcasse d'un bateau à aubes tout droit sorti du Mississippi. L'horizon était vide. Il n'y avait pas âme qui vive, et pas un bruit à part les cris des mouettes qui tournoyaient au-dessus des épaves couvertes de rouille. On avait du mal à se croire à quelques encablures de Manhattan. Depuis près d'une heure, Gaspard et Madeleine cherchaient désespérément le night shift, mais l'étendue du cimetière compliquait leur tâche. Les flocons qui tombaient de plus en plus drus empêchaient de distinguer les bateaux dont les contours fantomatiques se perdaient entre ciel et mer. Pour ne rien arranger, tout le cimetière n'était pas accessible en voiture. Il n'y avait pas de quai clairement identifié, pas non plus d'accès bétonné ou balisé. Selon les endroits, le pick-up roulait sur des chemins accidentés ou sur des avancées de terre en cul-de-sac, qu'il valait mieux emprunter à pied sous peine de s'embourber. C'est en parcourant l'une de ces traverses, après avoir dépassé une vaste lande sablonneuse dans laquelle était enlisé un remorqueur de l'armée, qu'un détail attira l'attention de Madeleine. Des arbres de taille moyenne sortaient littéralement de l'eau, une dizaine d'arbustes plantés des deux côtés d'un sentier de sable et de tourbe. Un agencement trop rectiligne pour être naturel. Qui viendrait planter de la végétation ici et pour quelle raison? Elle balança un coup de pied pour casser une petite branche. Gaspard la ramassa pour l'inspecter. « On dirait que le bois saigne, » fit-il remarquer en désignant la sève rouge du bois. « Putain !» lâcha-t-elle. « Ces arbres !»«
Quoi ?»«
Ce sont des aulnes !» L'arbre qui pleure du sang. L'arbre de la résurrection après le carnage de l'hiver. Celui de la vie après la mort. 2. Guidés par la haie d'aulnes, ils parcoururent une centaine de mètres sur un mauvais chemin en planche, jusqu'à apercevoir la silhouette haute et compacte d'un bateau qui croupissait, amarré le long d'un ponton de fortune. Le Night Shift était un chalutier de pêche arrière, long de plus de 20 mètres, une masse de ferraille encalminée, enkystée de rouille, d'algues et de limon. Sans une seconde d'hésitation, Madeleine céda d'une planche pour atteindre la rampe et sauter sur le bateau. Affrontant le vent de face, elle se faufila sous le portique, enjamba le treuil et rejoignit la passerelle. Gaspard la suivit. La neige était en train de geler, transformant le sol en patinoire. Le pont était envahi de gros cordages, de poulies, de câbles, de filets déchirés, de pneus éventrés. Un escalier glissant permettait d'accéder à la timonerie. l'endroit commençait à prendre l'eau. Le plancher était défoncé et les murs suintaient d'une humidité malsaine. Recouvert d'une saleté poisseuse, le compartiment de pilotage était dévasté. La barre, les radars, les radios et autres appareils de navigation avaient tous disparu. Pendant au mur, à côté d'un extincteur qui avait rendu l'âme, Madeleine avisa un document plastifié à moitié moisi. Un plan du chalutier qui récapitulait les mesures de sécurité à suivre en cas d'incendie. Ils quittèrent la timonerie et empruntèrent une sorte de pont portugais qui permettait d'accéder au poste d'équipage où la plupart des cloisons en bois avaient été abattues. D'abord, un couloir étroit, encombré d'une vieille cuisinière et d'un congélateur. Puis, deux cabines délabrées qu'on avait transformées en salles de chantier. Dans un coin, des sacs de ciment, une pioche, une truelle et quantité d'autres outils avaient été entreposés sous une bâche en PVC. Sur une autre ancienne couchette, au milieu de tessons de bouteilles et des cadavres de rats, on trouvait des dizaines de cartons vides en train de pourrir dans des flaques d'eau croupie. Madeleine déchira une des étiquettes scotchées sur les emballages et la montra à Gaspard. Liofi Foods, l'entreprise spécialisée dans la vente de rations de survie. Jamais ils n'avaient été aussi près de la vérité. En s'aidant du plan, ils descendirent dans ce qui avait dû être la salle des machines et qui était aujourd'hui le royaume des rats et de la corrosion. À leur arrivée, les bestioles décampèrent pour se réfugier derrière la tuyauterie qui courait au sol. Au fond de la pièce, une porte métallique bouffée par la rouille. Fermée. Madeleine demanda à Coutances de l'éclairer pendant qu'elle essayait de la faire céder. Baramine, pied de biche, rien n'y fit. Ils retournèrent sur le pont et, toujours grâce à la carte, cherchèrent une autre entrée pour accéder à la cale. Sans succès. S'il y avait eu autrefois un accès, il avait dû être condamné. Refusant d'abandonner, ils arpentèrent tous les recoins du pont. Le vent mugissait, les obligeant à hurler pour s'entendre. Des bourrasques furieuses déferlaient sur eux, les faisant chanceler. Tant bien que mal, ils essayèrent de balayer la neige avec leurs pieds. Leurs mouvements se voulaient rapides, mais leurs membres congelés semblaient ne plus leur appartenir. Au bout d'un moment, ils renoncèrent à se parler, préférant communiquer par gestes. De chaque côté des enrouleurs du chalut, ils remarquèrent deux larges bandes de verre dépoli, deux courtes tranchées constituées de briques d'aspect givré qui couraient sur le sol. Gaspard pensa tout de suite au principe du saut de loup ou de la cour anglaise, permettre à la lumière naturelle d'éclairer un sous-sol. Plus loin, Madeleine découvrit deux bandes grillagées fixées selon le même principe, des grilles d'aération. Elle courut jusqu'au poste d'équipage et revint avec une pioche. Elle crut d'abord qu'elle allait facilement réussir à faire voler en éclats le plafond de verre, mais la plaque était d'une épaisseur peu commune. Elle y mit toute sa force et s'y reprit à plusieurs fois. Il lui fallut un bon quart d'heure pour parvenir à percer la dalle vitrifiée. Puis elle termina le travail à la baramine pour dessouder tous les carreaux. Immédiatement, la neige s'engouffra dans l'espace. Craquant un des tubes fluo qu'elle portait à la ceinture, elle le balança dans le trou qu'elle avait ouvert. 3 mètres de vide s'ouvraient sous ses pieds.
« Il y a une échelle de corde dans la passerelle. Je vais la chercher !»
cria-t-elle en faisant demi-tour. Gaspard resta seul devant le gouffre, halluciné, fou, hagard. Les effluves épouvantables qui s'en échappaient, poissons, merde, urine, le firent sortir de son égarement. Quelqu'un avait été séquestré ici, c'était certain. Il se persuada qu'il entendait une voix mêlée au bruit du vent. Une voix qui l'appelait. Alors, il n'eut pas la patience d'attendre le retour de Madeleine. Il enleva sa veste et sauta dans la cale. 3. Gaspard se réceptionna lourdement en roulant sur lui-même dans la poussière. Alors qu'il se relevait, la puanteur abominable lui souleva le cœur. Cette odeur, il la connaissait, c'était celle de la mort. Il ramassa le bâton lumineux et avança dans la pénombre.
« Il y a quelqu'un ?»
La seule réponse fut celle du blizzard qui faisait tanguer le navire. Toutes les lucarnes et tous les hublots avaient été condamnés. Même si chaque goulet d'air vicié était un supplice, cette partie basse du bateau était moins humide que le reste de l'épave. L'atmosphère y était plus rêche. Et plus on progressait vers l'arrière de la coque, plus on s'enfonçait dans le silence. La tempête paraissait d'un seul coup très lointaine, comme si on était projeté dans un univers parallèle. À mesure que les yeux de Gaspard s'acclimataient à l'obscurité, il s'aperçut qu'il ne se trouvait pas dans la cale, mais à l'intérieur d'une sorte de salle de travail dans laquelle les pêcheurs devaient trier et éviscérer le poisson. Il passa devant un tapis roulant, un gros bac en inox, une rangée de crochets de manutention et de goulottes en métal. C'est derrière un empilement de caillebotis qu'il trouva ce qu'il savait inéluctable depuis qu'il avait senti l'odeur de la mort. Le cadavre de Bianca Sotomayor. Le corps de la vieille femme était allongé au sol, couché en chien de fusil au milieu des parpaings. Gaspard approcha sa lampe du cadavre. Les restes de Bianca ne ressemblaient plus à rien. Sa peau boursouflée, recouverte de cloques et luisante comme une éponge, était en train de se décoller. Ses ongles se détachaient. Son corps, enfin, tantôt jaunâtre, tantôt noir, cristallisait un des derniers stades de l'horreur. Gaspard tenta de ne pas perdre pied devant cette vision insoutenable. Si, malgré le froid, l'odeur de putréfaction était si forte, cela signifiait que Bianca n'était pas morte depuis très longtemps. Il n'était pas médecin, mais il aurait parié sur 3 semaines. Sans doute moins d'un mois, en tout cas. Gaspard s'enfonça plus en avant dans le corridor sombre, se laissant envelopper par la puissance de l'obscurité. À présent, la peur et le froid glissaient sur lui. Il était aux aguets, tendu, pleinement dans l'action. Il était prêt à tout. Ce moment était celui qu'il attendait depuis 20 ans. Le dénouement de quelque chose qui avait commencé bien avant qu'il entende parler de Sean Lawrence. L'issue d'un combat entre la part d'ombre et la part de lumière qui avait toujours coexisté en lui. Ces dernières journées avaient été inattendues, pleines de surprises. Lorsqu'il avait débarqué à Paris il y a 5 jours, il ne se doutait pas un instant qu'au lieu d'écrire une pièce de théâtre, il allait endosser l'équipement de spéléologue de sa propre vie pour y combattre ses démons et se découvrir des traits de caractère qu'il pensait éteints à jamais. Il avait canalisé tout ce qui lui restait de force, d'intelligence et de conviction. Plusieurs fois, il avait été tout près de sombrer, mais il était encore debout. Peut-être plus pour très longtemps, mais au moins était-il arrivé jusque-là, au bord de l'abîme, dans l'antre du monstre, prêt pour l'ultime affrontement. Car les monstres ne meurent jamais vraiment.
Il y a quelqu'un ?
Il avançait toujours, dans le noir. Le tube fluo devait être défectueux car il n'éclairait presque plus. Tout à coup, la dénivelée s'accentua et le passage se resserra. Il n'y voyait plus grand-chose. Il devina, plus qu'il ne les distinguait, des piles de boîtes de conserve, 2 paillasses, un tas de couvertures. Et encore, des cartons, des cagettes recouvertes de toiles d'araignée. Puis vint un moment où il ne put plus progresser. Il venait de se heurter à un mur de caillebotis empilé devant un nouvel entrelacs de tuyaux et de conduites en fonte. C'est à ce moment-là que le bâton lumineux rendit l'âme. Gaspard revint quelques pas en arrière, puis s'arrêta. À tâtons, il se dirigea vers le bruit léger d'une soufflerie qui provenait d'un gros tuyau d'évacuation. Il s'accroupit, se dit qu'il était peut-être trop gros pour pénétrer dans le boyau, mais y pénétra quand même. Il se mit à ramper dans le noir. Depuis qu'il avait sauté dans la cale, il savait qu'il ne reviendrait pas en arrière sans lui. Il savait que la suite de sa vie se jouait donc précisément ici. Pour arriver jusque-là, il avait arrimé son existence à celle de Julian Lawrence. Un pacte implicite, un pari fou de vieux joueur de poker qui, pour sa dernière partie, décide de mettre sur la table tous ses jetons et de jouer sa vie à 1000 contre 1. Le pari qu'il existe une lumière qui vaincra vos ténèbres. Dans le noir, Gaspard progressait, le ventre collé au sol. Un poids lui écrasait la poitrine. Ses oreilles bourdonnaient. Lentement, il avait l'impression de quitter le bateau. Il ne percevait plus le bercement du roulis. Il n'entendait plus le chalutier grincer ni craquer de toutes parts. Il ne sentait plus les effluves d'essence, de peinture et de bois mouillé. Il n'y avait que l'obscurité qui le happait, noir comme du charbon. et dans l'air, une odeur de terre calcinée. Et au bout du tunnel, l'escarbille qui se met parfois à briller lorsqu'on remue les cendres. C'est alors qu'il le vit.